comment un père va aimer sa fille? Si tu peux répondre oui à cette question, marie-toi avec lui. Le facteur risque est nul. Tu peux pas te tromper. Absolument pas. Un gars qui... Ouais, tu peux remettre en route là. Ok, on continue. Alors après, il y a la question des goûts. Alors là, tout à gauche, on a une routine. Après, on a une black. Après, on a une asiatique. Après, on a une... Excusez, enfin, je ne visais personne, mais une femme un peu ronde. Bon, un peu ronde. Et puis après, on a une... Et puis après, tout à droite, on a une femme que vous connaissez, vous l'avez vue à la télé récemment, qui est, comment on appelle ça, mixte. Métisse, c'est ça que je voulais dire, merci. Et pour les garçons, là, ben, on a un panel de choix. Un homme tout à gauche, un homme mature, d'expérience. Hein. Après, on a plutôt le bel âge, quoi, le beau gosse, le tombeur de ses dames. Après, on a de nouveau un gars, un black. Bon, après, j'ai hésité, ben, le pêcheur avec sa pipe, je ne sais pas si on accepte que les gens fument. Bon. Mais bon, il est là. Et puis, on a un homme asiatique. Ici, on a un panel de possibles, ce qu'on appelle le champ des possibles. Honnêtement, dans le domaine du mariage, il n'y a pas une volonté spécifique. Dieu donne le cadre général. Et je voulais donner le cadre général avec les textes bibliques qu'on vient de voir. Une fois que toi, tu respectes ces cadres généraux, tu as le droit de faire valoir tes goûts. Moi, tiens, je préfère plutôt celle-ci que celle-là. Hauteur, dans les deux sens... largeur dans les deux sens. Il y a des goûts, il y a des hommes qui préfèrent les rondes, ils ne pourraient pas se promener avec des filles moins rondes. Bon, après, il y a des hommes qui préfèrent les filles moins rondes. Et pour les hommes, c'est pareil. Et c'est pour ça que Dieu a créé une telle diversité. Remarquez dans la diversité dans les couples. On est tous uniques et on est tous fait différemment, et il y en a qui préfèrent ceci et il y en a qui préfèrent cela. Donc tu as le droit, on a le droit d'aller dans le panel des choix pour aller selon ses goûts. C'est pas un problème. Vous comprenez? Dieu a créé l'organe du goût. Dieu a créé l'organe du choix. Pour que nous puissions choisir. Ça fait plaisir de pouvoir choisir. Non? Donc il n'y a pas une volonté spécifique. Il y a des cadres généraux dans la volonté de Dieu. Et on peut, comme ça, les suivre. Alors, quelles sont les dispositions du chrétien? On continue. Ne pas chercher la volonté de Dieu, mais la vivre. Je vous donne quelques exemples. Ici, il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Vous trouvez qu'il est beau ce verset? Parce que il y a le verbe chercher. Le texte ne dit pas qu'on doit chercher les choses qu'on voudrait pour nous. Le texte dit qu'on doit chercher le royaume de Dieu. Notre focalisation, c'est plus sur ce que je veux moi, ou ce que je voudrais hypothétiquement, ou les choses qui me feraient plaisir. Là, de nouveau, on est dans un rapport mécanique entre une cause et un effet. Dieu dit « Cherche-moi, moi, et moi, je m'occupe de ce qui est bon pour toi. » C'est lui qu'on doit chercher. C'est pas sa volonté qu'on doit chercher, c'est lui qu'on doit chercher. Il y a un poète qui a écrit « Marie-toi avec Dieu et te donnera une femme. » C'est une traduction de ce verset-là, non? Mets-toi tout proche de lui, occupe-toi de ses affaires, comme dit le chant, occupe-toi de ses affaires et il s'occupera des tiennes. C'est pas galvaudé. C'est vraiment comme ça que ça se produit. Dieu, il voudrait qu'au lieu que nous recherchions sa volonté, nous le recherchions lui. Seigneur, prends plus de place dans ma chambre. Prends plus de place dans mon bureau. Prends plus de place dans mon atelier de travail. Occupe toutes les pièces de la maison. Et après, c'est lui qui s'occupe des détails. Le reste, c'est que des détails. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le nombre de fois où, en matière de recherche de la volonté de Dieu, tu lui demandes des choses et il ne te donne pas. Et tu te dis, il y a un décalage entre l'époque apostolique et la nôtre. À l'époque de Jésus, il pouvait demander, et Jésus donnait, et nous, ben, on demande depuis des années, il ne nous donne pas. C'est immature de réfléchir comme ça. Si tu demandes des choses à Dieu et il ne te donne pas, c'est déjà une réponse. Donc il t'a donné, dans le fait qu'il ne te donne pas, il t'a donné sa réponse. Premièrement. Et deuxièmement, peut-être que quand il ne répond pas, il est en train de te dire, mais tu n'es pas en train de chercher quelque chose qui me convient. Lui, ce qu'il voudrait, c'est un rapport. Regarde mon garçon, là, quand il était en quoi? Après, c'était, c'est quoi?
C'est
un. Oui, après, c'est un. C'est deux. Et après,
c'est
un. Oui, c'est ça. Bah, quand il était à cette époque-là, il rentrait de l'école, et puis il me regardait, et puis il voulait savoir si je voulais qu'il fasse ses devoirs. T'sais, il me regardait genre, je peux aller jouer ou il faut que je fasse mes devoirs? Et j'ai dit, Samuel, écoute-moi bien, le jeu, oui, mais après les devoirs. Oui, papa, à l'époque. Et oui, papa, de toute façon. Oui, papa, il fait ses devoirs. Bon, le lendemain, il rentre de l'école, et il me regarde avec ses yeux un peu, un peu fourbe, là. Et puis, ça voulait dire, je peux aller jouer, tu dois faire mes devoirs. Il se met, faire tes devoirs. Mais le père, il va répéter ça combien de fois? 3 fois, 1 semaine, allez, 2 semaines, parce qu'il y a des gens qui sont patients. Mais au bout de 2 semaines, le père, il va penser quoi? Et moi, c'est ce que j'ai pensé à un moment donné. Mon fils ne me connaît pas encore suffisamment pour savoir qu'en rentrant de l'école, il ne doit plus me poser cette question. Et ça, ça me fait de la peine, parce que j'aimerais qu'il me connaisse assez pour qu'il se dise, je sais tellement qui est mon père, je le connais tellement, qu'en rentrant de l'école, je vais directement aller faire mes devoirs. Après le goûter, bien sûr, hein, parce que la maman, sinon, elle va être contente. Le goûter, les devoirs, et après le jeu. Et ce qui fait de la peine à notre Père Céleste, c'est qu'on lui pose toujours les mêmes questions. Papa, il faut que j'aille faire mes devoirs. Et notre Père Céleste, avec son infime patience, il nous dit, oui, ce serait bien que tu ailles faire tes devoirs avant de pouvoir jouer. Mais pourquoi nous, on s'obstine à lui poser toujours les mêmes questions? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on le connaît tellement peu qu'on se sent de nouveau dans le besoin de lui reposer la même question. On ne le connaît pas assez, donc il faut qu'on lui pose des questions pour savoir comment lui il fonctionne. Mais ça lui fait mal au cœur. Parce qu'il aimerait avoir un rapport d'intimité tellement étroit avec moi. Il aimerait que... Vous savez la connivence qu'il y a entre deux êtres qui s'aiment. On dit que deux êtres qui s'aiment depuis longtemps n'ont plus besoin de parler pour communiquer. Et se comprennent par des expressions faciales, par des postures corporelles. Et on appelle ça la belle connivence qu'il y a dans les couples, entre autres. Et plus tu avances dans ton couple, plus tu vieillis dans ton couple, moins tu as besoin de... Tu comprends l'autre par un feeling extraordinaire. Avec notre Père Céleste, on est dans la même situation. Je le connais tellement bien que je lui pose plus de questions, c'est quoi sa volonté? Sa volonté, je la connais, il faut que je fasse mon devoir de maths. Pour les profs de maths, là, c'est bien ça. Hein? Alors ici, tu vois dans le texte, si vous demandez quelque chose en mon nom, et on a cru naïvement qu'il fallait terminer nos prières au nom de Jésus, et dans certains milieux, on le crie. Parce qu'on a l'impression qu'en criant, il entendra mieux. Au nom de Jésus. Attention, la formule « nom de Jésus » n'est pas une formule magique. Dieu ne fonctionne pas parce que je prononce la formule. Dieu il fonctionne parce que je me suis inscrit dans ce que représente son nom. C'est-à-dire que je le connais tellement bien que ma prière, elle est dans ce que lui, il est. C'est ça son nom, c'est son identité. Où est la marge d'erreur si je lui demande quelque chose que lui-même veut? Si je lui demande quelque chose que lui-même veut, je le ferai. Parce que je lui demande quelque chose que de toute façon il allait faire. Donc il va le faire. Et si je lui demande quelque chose qui est à l'extérieur de son nom, c'est-à-dire à l'extérieur de son identité, il ne peut pas le faire parce que ma prière ne s'inscrit pas en son nom. Comprenez? Mais pour demander quelque chose à mon Père Céleste, qui s'inscrit dans son nom, ça nécessite que je fasse sa connaissance et que je le connaisse très bien. Ensuite, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Il y a des mots très très forts ici. Il y a déjà la différence entre le serviteur et l'ami. Le serviteur, il fait des tâches un peu périphériques, il n'a pas, il n'entretient pas une relation très intime avec le maître de maison, à peu près.
Et Jésus oppose le statut de serviteur au statut d'ami. Alors, le serviteur, il ne sait pas.
Il exécute juste les ordres, d'accord ?
Tandis que l'ami, il sait tout. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père.
Donc, regardez le rapport mécanique, là. Au plus je m'approche de Jésus, au plus je le connais. Au plus je le connais, au mieux je connais sa volonté. Et après, c'est facile de ne pas lui poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Je sais ce qu'il veut, puisque je suis tellement proche de lui que je n'ai pas besoin de le savoir par un autre moyen.
Ça, c'est dans le verset 15. Regardez le verset 7. Il y a un conditionnel, là. Ne vous offusquez pas de ce conditionnel. Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voulez.
Mais il y a un conditionnel, là. Ce n'est pas la peine que nous demandions la volonté de Dieu à Dieu si on n'est pas, nous, dans cette dynamique de proximité.
Demeurez en lui. Demeurer est un exercice
qui nécessite de la discipline. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Du tout. La vie chrétienne nécessite que, par amour pour mon maître, je m'inscrive dans une dynamique de proximité avec lui qui s'entretient. Essayez de ne plus parler à votre épouse pendant 3 jours. Vous allez finir sur les canapés la première semaine, et la deuxième semaine, elle va vous demander des comptes. Hein. Tu restes, tu restes pas, tu fais quoi ? Tu peux circuler, hein. C'est pas possible de se comporter comme ça avec Dieu. Une fois je suis là, une fois je suis pas là, une fois je rentre, une fois je rentre pas, une fois je dors dehors. Tu ferais pas ça avec des humains, pourquoi tu le fais avec Dieu ? C'est extraordinaire quand même. Ça exige que je m'inscrive dans une régularité de proximité avec lui. Après ce qu'il a fait pour moi, je peux faire quelque chose aussi, un petit peu. C'est extraordinaire la diplomatie que j'exerce vis-à-vis de mes collègues de travail, la gentillesse que je peux développer vis-à-vis de plein de choses, et avec Dieu, je suis négligent. Avec Dieu, je suis même nonchalant. Une fois oui, une fois non, selon mes sautes d'humeur. Tu sais, une fois je suis bien, une fois je suis pas bien, une fois je veux, une fois je veux pas. Tu ferais pas ça avec ta femme. Pourquoi tu le fais avec Dieu ? Mais non. Il y a un conditionnel là.
Il faut s'inscrire dans cette idée. Et regardez, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Être disciple du Christ nécessite un conditionnel. Verset 8. Je vais un peu plus vite. Verset 9. Demeurez dans mon amour. Se maintenir dans l'amour de Dieu. Verset 10. Se maintenir dans les commandements. Voyez les conditionnels qui reviennent là dans Jean 15, verset 14. Allez, on va juste regarder ce psaume 23 rapidement pour vous montrer, toujours dans notre problématique, que nous ne sommes pas à la recherche de la volonté de Dieu, nous sommes dans le discernement de sa volonté. L'Éternel, il est mon berger, et objectivement, je ne manquerai de rien. Or, c'est quoi la différence entre objectivement et subjectivement ? Objectivement, c'est quelque chose qui se réalise, que je le ressente comme tel ou non. C'est un phénomène objectif. Une fois, j'étais allé chez le médecin pour mon genou. C'est une thérapeutique qui a pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et un jour, je suis arrivé chez lui, il m'a sculpté, il m'a dit « Monsieur, vous êtes guéri ». Et j'ai dit « Non, je ne suis pas guéri, parce que moi, j'ai mal au genou ». Il me dit « Ça, c'est ce que vous ressentez. Objectivement, vous êtes guéri ». Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Avec Dieu, on est dans ce phénomène-là, qu'on ne doit pas mélanger ce qui, à ses yeux, est objectivement avéré, ce qui est objectivement advenu, de ce que moi, je ressens. Parce que si j'écoute ce que je ressens, il y a des fois où je suis même capable de dire « Dieu m'aime plus ». Mais c'est parce que je ressens la chose, subjectivement. Mais objectivement, est-ce qu'il se peut que Dieu arrête de m'aimer ? Non. La parole de Dieu dit que Dieu m'aime tout le temps, que je le ressente comme tel ou pas. Ici, l'Éternel est mon berger est un phénomène objectif. Tu le ressens comme tel ou pas ?
dans un sens, si vous me passez l'expression, j'ai envie de dire, ça a peu d'importance. Ce qui est important, c'est que je le sache. De manière sûre, la Bible le dit, cela me suffit. L'Éternel est mon berger, et objectivement, je ne manquerai de rien. Demain, il va te manquer quoi? Demain. Je suis sûr que tu as des soucis pour lundi. Lundi, à mon boulot, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir tel collègue sur le dos, je vais avoir tel problème, ceci, cela, il faut que je tombe le gazon, etc. Il va te manquer plein de choses. Sur un plan subjectif, il va te manquer plein de choses. Sur un plan objectif, je ne manquerai de rien. Et moi, l'invitation que je te fais, c'est que tu passes au plus près que possible d'une posture de subjectivité vers une posture d'objectivité. Seigneur, je commence déjà à avoir des soucis par rapport à demain. La belle affaire. Demain, Dieu sera là avant même que je me réveille. Hein, puisque dans le psaume, il est dit qu'il est réveillé avant moi. Et dans le psaume, dit qu'il ne s'endort pas, donc il est forcément réveillé. Dieu, il est là demain. Pourquoi tu fais des soucis? Il ne te manquera de rien. Il ne te manquera rien. Regarde la suite du psaume. Il me fait reposer dans de verts pâturages. On a des qualificatifs ici. Ils sont pas seulement, c'est pas seulement des pâturages, c'est déjà génial. Hein. S'il avait simplement dit, il me fait reposer dans des pâturages. Mais ça, c'est encore mieux qualifié. C'est des verts pâturages. Et pour les eaux, eh ben, c'est pas des eaux grondantes, c'est pas des eaux avec vagues, c'est des eaux paisibles. Pourquoi on s'inquiète? On est peu de choses. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Tu le crois, ça? Tu as peut-être la peine à le croire à cause de ce de quoi est fait ton quotidien. Mais je répète, au risque d'être un peu scolaire, ne regarde pas à tes circonstances immédiates. Regarde à ce que Dieu te dit dans sa fidélité. C'est ça ton héritage. Ton héritage, c'est qu'il te restaure, qu'il te conduit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Hein? T'as Dieu avec toi tous les jours de ta vie. Allez, je vais un peu plus vite. Rassuré. L'onction. Le bonheur. La grâce. Tous les jours. Donc ça, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est tous les jours. Jusqu'à la fin. Pourquoi nous nous inquiétons? Pourquoi nous nourrissons de l'inquiétude par rapport à la volonté de Dieu? Objectivement, Dieu est toujours présent. Et j'ai aucune recherche à faire quant à sa volonté. Il faut juste que lundi, j'aille là où je dois aller. T'es prof? Va à ton boulot. T'es mécano? Va à ton boulot. Et s'il doit se passer quelque chose, ça va se passer. T'as pas besoin de le rechercher. Il faut juste que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Ce que Dieu te demande de faire, c'est que tu sois sérieux dans ta vie chrétienne et que tu t'inscrives dans le cadre général des 10 commandements. Aime Dieu de toute ton âme, aime les hommes de tout ton cœur, et va faire tes activités. Pourquoi tu te turlupines la tête à essayer de savoir ce que Dieu veut pour toi? Fais ce que tu dois faire dans l'instant présent. Si Dieu te veut ailleurs, puisque toi tu es dans des dispositions de cœur, de discernement, il va ouvrir à droite, il va ouvrir à gauche, et toi, t'as qu'à juste à te laisser guider. C'est pas compliqué. La volonté de Dieu, elle vient au devant de tes attentes avant que tu sois conscient de tes attentes. C'est pas la peine de la rechercher. Il faut juste entrer dans le discernement. Conclusion. Regarde cette photo. Elle est parfaite, cette photo. C'est pas génial, non? Quand, dans Google, j'ai marqué, Google Images, j'ai marqué diverses directions. La première photo qui apparaît, c'est celle-là. Elle est divine. Elle montre quoi, cette photo? Allez, faites-moi l'exégèse de la photo. Interprétez cette photo. Il y a plusieurs choses. Plusieurs directions. Nord, sud, il n'y a rien marqué. Page blanche, wow. Avec Dieu, pas nous. Pas de distance, pour ne pas affoler.
Sydney,
ouais, c'est ça. Sydney, ouais, ou Auckland, la Nouvelle-Zélande.
Quoi d'autre?
Il y a un autre phénomène là, qui est extraordinaire sur la photo. Là. C'est le chien. Il y a un petit parasite juste là. Tiens, le petit parasite qui coince un peu dans ta vie là, mais attends, par rapport à la taille du ciel, c'est rien. Te laisse pas choper par ce petit parasite. Vous savez quoi, on est tellement vulnérable dans notre humanité qu'on se focalise là-dessus et qu'on se dit il y a plein de nuages dans ma vie. Non, il y en a un. Le reste, c'est bleu. C'est vaste. C'est énorme. Wow. Bon, moi je trouve ça bien quoi. La volonté de Dieu ne se cherche pas, elle se vit. J'ai déjà répété ça, mais il faut la graver dans la Bible. Et saint Augustin, il a dit aime et fais ce que tu veux. Ça, c'est une parole extrêmement dangereuse. Il a pris des risques avant d'écrire ça. Saint Augustin, c'est un pasteur, philosophe, à cheval entre le 4e et le 5e siècle. Qui était pasteur en Afrique du Nord. Lui-même, il était algérien, et il était donc en Kabylie, là, à l'époque de la fin de l'Empire romain, il était pasteur là-bas. Et lui, quand il s'est penché sur ces questions, sur la question de la volonté de Dieu, il a réduit la synthèse, et à un moment donné, il est arrivé à cette extrême réduction qui doit nous parler. Aime Dieu et fais ce que tu veux. Est-ce que vous comprenez la profondeur du texte, là? Si on écrit « Fais ce que tu veux », ça ne va pas du tout. Parce que si j'écoute ma condition adamique, ma condition en Adam, je peux faire des dégâts, n'est-ce pas? Mais là, c'est dit « Aime ». Et puis, alors, plus haut, il dira « Aime Dieu », après plus bas, il dira « Aime les humains ». Et là, il a réduit dans sa synthèse à « Aime ». Donc, à partir du moment où tu aimes, tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi? Parce que ce que tu feras respectera toujours infiniment Dieu et respectera toujours infiniment ton prochain. Elle est où la marge d'erreur? Fais ce que tu veux. La volonté de Dieu, elle se vit dans un cadre des 10 commandements et après, tu peux faire ce que tu veux. Et Paul a dit quelque chose d'analogue, c'est le dernier texte que vous avez sous les yeux. Oubliant ce qui est en arrière, me penchant dit l'autre bout de texte, en avant, je cours vers le but. Et l'expression originale qui dit « je me penche en avant », c'est une expression qui renvoie au sport de course, de vitesse. Et quand Paul emploie l'expression « me penchant en avant », il emploie une expression si forte qu'on est au bord de la rupture de l'équilibre. Vous savez, les gars qui courent les 100 mètres, là, ils démarrent très fort, presque à l'horizontale, là. Et ils sont toujours au bord de la rupture, je tombe pas, tu sais. Et c'est cette expression-là. C'est-à-dire qu'on est au taquet, comme diraient les autres. On est penché en avant, au bord de la rupture. Mais c'est là qu'on est le plus efficace, donc on va à fond. Donc, nous, notre job, on ne recherche pas la volonté de Dieu, on se penche en avant et on court pour rechercher le but, aimer Dieu infiniment, aimer les hommes infiniment, et je cours. Et après, c'est lui qui dit la trajectoire. Elle est toujours vainqueur. C'est terminé.